morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Prevere.
Bonjour à tous, bonjour Manon.
Bonjour Stéphane.
Il est 9h50, vous êtes bien sur Radio Prévert à Chalon 105.9 FM et c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle matinale comme chaque semaine. Nous sommes de retour et en direct. Au sommaire, ce mercredi, on va parler histoire en revenant sur l'un des maîtres de l'informatique, Alan Turing. Cinéma ensuite avec le long métrage Call Me By Your Name, mais aussi littérature avec le manga Maggie et musique en retraçant le parcours exceptionnel du français Vianney. Et on commence donc tout de suite par faire un point sur l'actualité nationale et internationale. C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. Le ciel sera assez nuageux, des averses de pluie et même des orages pourraient toucher l'ensemble de notre département. Quelques éclaircies sont toutefois attendues. Quant aux températures, Météo France nous prévoit 18 à Chalon, Toulon-sur-Arrou et Louhans, 19 à Mâcon et Marcigny. Dès jeudi, on conservera un temps similaire à la veille avec de la pluie en perspective. Vendredi, retour du grand soleil sur la Saône-et-Loire, excepté à l'ouest du côté de Digoin et Paray-le-Monial, où les averses seront bien présentes. Le mercure sera toujours agréable. Les deux jours suivants, vous pourrez profiter d'un week-end ensoleillé. Néanmoins, les nuages reviendront apporter quelques gouttes dimanche après-midi. Côté température, elles seront en hausse. On atteindra 22 au meilleur de la journée dimanche. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec l'Assemblée nationale qui a voté la nuit dernière en première lecture l'article controversé sur la répression des infractions sexuelles sur les mineurs. L'article 2, qui fait partie du projet de loi de Marlène Schiappa et dénoncé par les oppositions, vise à punir les violences sexuelles sur les mineurs. Les échanges ont été tendus puisque les opposants dénoncent qu'avec ce dit article, un acte de viol d'enfant pourra être considéré comme un délit et non plus comme un crime. Dans l'actualité également, la situation géopolitique qui se tend une nouvelle fois entre la Corée du Nord et les États-Unis. La Corée du Nord a menacé ce mercredi d'annuler le sommet prévenu le 12 juin prochain entre Kim Jong-un et Donald Trump si Washington essayait de la contraindre à renoncer à son arsenal nucléaire. C'est donc un pas en arrière dans la bonne entente entre les pays. Cette décision intervient après des manœuvres militaires au sud de la Corée. Et enfin, pour refermer ce flash, ce mardi, des chercheurs ont mis au jour deux pages inédites du journal d'Anne Frank. La jeune fille avait été déportée et était décédée dans un camp de concentration nazi en 1945. Ces pages témoignent des réflexions de l'adolescente au sujet de la sexualité. Âgée de 13 ans, elle a donc rédigé quatre blagues, assez crues et ajouté quelques paragraphes évoquant l'éducation sexuelle et les prostituées. Voilà, fin de ce flash, on poursuit avec toi Manon, on ouvre une page histoire sur Radio Prévert et tu vas nous retracer le parcours semé d'embûches d'Alan Turing, l'un des pionniers dans l'univers de l'informatique.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Nom de Zeus, votre rubrique histoire, mythes et légendes. Bienvenue sur la chronique histoire, celle qui vous fait retourner dans le passé. Et sans DeLorean, pour les connaisseurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au précurseur de l'informatique, mais également un homme à la sexualité taboue. Cet homme que vous connaissez peut-être se nommait Alan Turing. Alan Matheson Turing est né le 23 juin 1912 à Londres et est mort le 7 juin 1954 à Wilmslow. Il était connu pour être un brillant mathématicien et un cryptologue de renom, auteur de travaux qui sont à l'origine même de l'informatique. J'ai décidé pour cette chronique de la couper en trois parties. Déjà, nous allons commencer par une sur la Seconde Guerre mondiale et son rôle dedans. C'est parti. En 1936, Turing part faire son doctorat à Princeton, donc aux États-Unis. Assistant à la montée du nazisme, il se rapproche des milieux pacifistes, sans pour autant fréquenter les marxistes. De retour en Angleterre en 1938, il est enrôlé par l'armée anglaise, sitôt la guerre commencée. Au début de cette période, l'armée allemande remporte au début de la Seconde Guerre mondiale de nombreuses victoires dans les mers. Une des clés de ces victoires est la machine Enigma, une machine à coder électromagnétique qui permet à l'état-major allemand de transmettre à ses sous-marins des messages indéchiffrables par les services secrets alliés. L'armée britannique réunit alors, dans un lieu tenu secret, 10 000 personnes, essentiellement des petites mains, c'est-à-dire des secrétaires chargés des tâches rétrobatives, mais aussi des chercheurs, des joueurs d'échecs, etc., afin de tout faire pour comprendre le mécanisme de la machine Enigma. Avec un autre mathématicien, Walsham, Turing est à la pointe de ses travaux de recherche, et avant la fin de la guerre, il conçoit une machine électronique, le Colossus, qui permet de décrypter tous les messages allemands provenant de Enigma. Après la guerre, où Wallan gagne en prestige, il travaille à l'Institut de physique de Grande-Bretagne à la conception des premiers ordinateurs. Il s'intéresse aussi à la biologie et particulièrement aux connexions neuronales, avec en toile de fond la question « Pourquoi les machines, si douées pour effectuer des calculs réparbatifs à l'homme, sont-elles si gênées pour simuler les actions les plus naturelles de l'être humain ?» Donc là, marcher, prendre un verre, etc. Maintenant, attaquons-nous à une deuxième partie. L'homosexualité d'Alan Turing, une sexualité qui dérange. Les mœurs homosexuelles de Turing gênaient beaucoup dans la prude Angleterre de la guerre froide. Il assumait pourtant totalement son orientation sexuelle, il ne cachait d'ailleurs pas ses aventures. À cause de cela, les services secrets, pour lesquels il travaillait encore, se méfiaient des confidences sur l'oreiller qu'il aurait pu faire à un espion russe formé à cela. En 1952, sa maison de Manchester est cambriolée. Turing porte plainte. Arrêté, le cambrioleur dénonce le complice qui lui avait indiqué l'affaire, un examen occasionnel de Turing. Celui-ci ne nie pas cette ancienne relation. Tous deux sont inculpés d'indécence manifeste et de perversion sexuelle d'après la Criminal Law Amendment Act, qui date de 1885. Quelques années plus tôt, ce n'aurait été qu'un fait divers. Mais au début des années 1950, une affaire retentissante d'espionnage scientifique au profit de l'Union soviétique, où sont impliqués des intellectuels anglais homosexuels surnommés les 5 de Cambridge, a rendu les services de contre-espionnage britanniques et américains sensibles à un profil comme celui de Turing. Le procès est médiatisé. Hugh Alexander fait de son confrère un brillant portrait, mais il est empêché de citer ses titres de guerre par le Secret Act. Turing est mis en demeure de choisir. Incarcération ou castration chimique réduisant sa libido. Il choisit le traitement, d'une durée d'un an, avec des effets secondaires temporaires. Le coureur à pied svelte qu'il était devient gros, impuissant, ses seins grossissent comme ceux d'une femme, et surtout des effets psychiques profondément démoralisants. Alors qu'il a été consacré en 1951 en devenant membre de la Royal Society, à partir de 1952, il est écarté des plus grands projets scientifiques. Toutefois, en avril 1953, la cure se termine, ses effets s'estompent, et Turing recommence à faire des projets de recherche, de voyage en France et en Méditerranée. Et pour terminer, une troisième partie, celle de sa mort. Le 7 juin 1954, il croque une pomme qu'il a préalablement trempée dans une solution de cyanure. Il n'existe pas de certitude à cet égard, la pomme n'ayant pas été analysée. Cependant, il est retrouvé mort le lendemain, l'écume aux lèvres étendue dans son lit, la pomme posée sur la table de chevet. Certains disent aussi que le logo d'Apple, une petite pomme croquée, serait un clin d'œil au destin tragique de Turing. La biographie de Turing, ou plutôt son biographe, Andrew Hodges, a émis l'hypothèse que Turing aurait choisi ce mode d'indigestion précisément afin de laisser à sa mère la possibilité de croire à un accident, sachant que les pépins de pomme contiennent naturellement du cyanure, mais en quantité trop faible cependant pour avoir un effet toxique. Nombreux sont ceux qui ont souligné le lien entre sa méthode de suicide présumée et le film Blanche-Neige et les Sept Nains, dont il avait particulièrement apprécié la scène où la sorcière empoisonne la pomme, au point de chantonner régulièrement les vers prononcés par celle-ci. « Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. » Toutefois, Jack Copland, spécialiste de Turing, estime que la mort de celui-ci est accidentelle. Il avance les arguments suivants. Turing ne montrait aucun signe de dépression, et peu avant sa mort avait noté des projets par écrit. Il avait l'habitude de faire des expériences chimiques et détenait du cyanure à cette fin. Il lui arrivait d'être prudent dans ses expériences, goûtant par exemple des produits pour les identifier. Il aurait pu également inhaler accidentellement une solution cyanurée qu'il utilisait pour dissoudre de l'or. C'est de cette façon que, pour Copland, il aurait ingéré ou inhalé une dose mortelle de cyanure. À titre posthume, la reine Elisabeth a accordé à Turing la grâce royale pour sa condamnation le 24 décembre 2013, c'est-à-dire près de 60 ans après sa mort. J'en ai donc terminé avec Alan Turing, qui est donc le précurseur de l'informatique et un homme brillant. Il faut savoir qu'à l'époque, il avait même écrit un codage sur papier et que ce codage que l'on a retrouvé a été mis sur ordinateur et marchait vraiment. C'était vraiment un codage qui marchait alors qu'à l'époque, il n'avait pas d'ordinateur. C'est donc vraiment l'origine de l'informatique. Ceux qui ont fait informatique et qui ont déjà fait du codage voient ce que je veux dire. Cependant, il n'a pas vécu une époque facile, car c'était une époque où les personnes de sexualité différente étaient discriminées, tout simplement. Et quand il s'est fait cambrioler, il est passé de victime à... comment dire ? Bref, quoi, il était la victime au départ et après on l'a condamné, alors qu'il n'avait pas à être condamné pour ce qu'il était, tout simplement. Et maintenant... nous allons totalement terminer cette chronique histoire. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Merci Manon, on poursuit en musique sur l'antenne de Radio Prévert. On écoute maintenant Lady Gaga qui a annoncé qu'elle préparait de nouveaux titres. Mika, l'excentrique chanteur et coach de The Voice. Et enfin Sia avec son morceau Big Girl Cry. On parlera dans la deuxième partie de cette émission, ce matin, cinéma. Retour sur Call Me By Your Name, qui traite et met en image un amour impossible. Et on ouvrira une page littérature avec Manon, qui évoquera pour nous le manga Maggie. Restez branchés sur le 105.9 FM. On vous accompagne jusqu'au déjeuner. A tout de suite. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers. 105.9.
To be wrong, caught up in your show. Yeah, at least now I know. les Américains comprennent.
Contexte. On a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. On fait boum 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 boum. Hier on était chez ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, y a le temps faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas vulgaire. Ça, ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Soit plus moins ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas vulgaire. On a toujours un truc à faire. Les étagères font pas la boum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. 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 Boum boum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. 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 Quand toi et moi on fait boum boum boum.
The girl in the fast lane. No time for love. No time for hate. No drama. No time for games. The girl who's so lying. I'm home on my own. Check my phone. Nothing to Champagne.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. De retour sur l'antenne de Radio Prévert, on va parler 7e art désormais, avec un film très touchant et qui a beaucoup fait parler pour les sujets qu'il traite. On va revenir ce matin sur la fiction Call Me By Your Name, sortie dans les salles il y a quelques semaines.
Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert, 105.9.
Réalisé par Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, Appelle-moi par ton nom en français, est une fiction tantôt joyeuse, tantôt touchante. Le réalisateur adepte des scénarios dramatiques et romantiques a su délivrer ici un long métrage percutant et intense. Il met en avant un sujet qui reste encore aujourd'hui tabou, l'amour, mais surtout les questionnements sur l'orientation sexuelle, alors que demain, le 17 mai, sera journée contre l'homophobie et la transphobie. À travers ce film, le réalisateur sublime la rencontre secrète et en toute discrétion entre deux hommes lors d'un été en Italie. Tel un véritable mélodrame, la fiction est appuyée par une ambiance sonore et musicale exceptionnelle. On y reviendra un peu plus tard dans cette chronique. Au casting, Timothée Chalamet, qui interprète ce jeune adolescent nommé Elio, qui développe ses premiers sentiments amoureux et son attirance pour les hommes. Dans la vie de tous les jours, d'origine française et américaine, il est en train de devenir la nouvelle coqueluche d'Hollywood. À ses côtés, Armie Hammer, qui joue le rôle d'Oliver, venu en séjour durant la saison estivale. Ce dernier est l'un des acteurs les plus prisés outre-Atlantique actuellement.
Professeur Perlman, merci beaucoup. Je suis
très confiant, hein.
I can show you around.
That'd be great. Thank you. So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun.
All right, later.
Veramente meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved. And so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them.
Oh, to see without my eyes the first time that you kiss.
Is there anything you don't know?
Boundless by the time I cry.
You only knew how little I know about the things that matter.
Build your walls around.
What things that matter?
White noise, what an awful sound.
You know what things.
Rolling by road.
You're saying what I think you're saying.
Feel my feet above the ground.
You shouldn't have said anything.
And just pretend you never did.
Nature has cunning ways of finding our weakest spot.
Blessed
Après avoir entendu la bande-annonce en anglais de Call Me By Your Name, on va aborder désormais le récit de la fiction plus en détail pour les moins anglophones d'entre vous. Durant l'été 1983, au nord de l'Italie, un garçon de 17 ans, Elio, passe des vacances dans l'immense villa familiale. Il est entouré par ses parents très aimants et qui le soutiennent dans sa vie. Son père est un archéologue très réputé, quant à sa mère, elle est traductrice. Vous l'aurez sans doute compris, ses parents sont de véritables intellectuels. C'est une sorte de havre de paix où le protagoniste évolue et se construit. Mais outre ces décors magnifiques, lumineux, il y a l'ennui. Elio se sent enfermé comme piégé. Néanmoins, plongé depuis toujours dans cet univers assez bourgeois et rassurant, le jeune homme occupe ses journées à composer et jouer du piano, bouquiner, sortir avec ses amis, faire du vélo ou encore se baigner dans la rivière. En parallèle, il flirte avec Marzia, une jeune fille qu'il convoite. Mais tout va se trouver chamboulé quand arrive Oliver, un doctorant de 24 ans, venu aider dans ses recherches le père d'Elio. Un brin arrogant, l'Américain drague rapidement une jeune amie de la famille. Oliver se montre d'abord indifférent face à Elio, avant d'y témoigner son affection. Torturé par ses hormones et son attirance initiale pour Marzia, Elio ne cesse pourtant de développer des sentiments pour son aîné. Tous deux profitent de cet été, parlent de littérature et se baladent à travers cette Italie pittoresque. Elio et Oliver finissent par tomber amoureux l'un et l'autre. Le jeune, sans doute un peu perdu, va tout de même avoir une relation sexuelle pour la première fois de sa vie avec Marzia. Si l'histoire d'Elio et Oliver reste secrète, les jours suivants ne font qu'amplifier les sentiments entre les deux personnages principaux. Malgré tout, l'été se termine bientôt et Oliver doit alors repartir dans son Amérique natale. Les parents d'Elio, conscients d'une proximité entre leur fils et leur invité, suggèrent alors aux deux hommes de partir quelques jours seuls avant qu'Oliver ne reparte pour son pays. Oliver et Elio passent ainsi 3 jours de romance absolue et clôturent un été fort en émotions. La suite, je vous la laisserai la découvrir justement en regardant le long métrage. Les séquences qui suivront le départ d'Oliver seront particulièrement intenses. On notera toutefois l'une des scènes les plus poignantes qui n'est autre que le discours et le monologue du père d'Elio à son fils, où il se montre très compréhensif à son égard. Le paternel exprime alors tous les regrets qu'il a eus de n'avoir pu vivre une histoire comme celle de son fils venait de vivre avec autant d'émotions et d'attachement.
Stéphane, tu nous parles du film. Mais aurais-tu des anecdotes, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine dans cette chronique cinéma ?
Oui, bien sûr Manon, et j'en ai même 3 ce matin. D'abord, Call Me By Your Name est tiré d'un roman écrit par André Assiman, comme pour beaucoup de fictions. Paru en 2007, le livre est plébiscité pour son érotisme et le profond impact émotionnel qu'il a suscité chez les lecteurs. Néanmoins, quelques différences sont à noter. Le film est relaté au présent, tandis que le roman est intégralement raconté en flashback d'après les souvenirs du jeune Elio. Seconde anecdote désormais concernant le tournage du film. Il ne pouvait avoir lieu qu'en été et par conséquent il n'a cessé d'être repoussé en raison de problèmes d'emploi du temps, aussi bien chez les acteurs que pour le réalisateur. Après 9 ans d'attente, le tournage a finalement lieu en 2016. Et enfin, je vous le disais, la fiction est un mélodrame. La musique a une place importante pour les émotions que le film transmet aux spectateurs. On retrouve des tubes tels que Words Don't Come Easy, Love My Way ou encore Lady Lady. Les bandes originales, quant à elles, ont été composées par Sufjan Stevens au programme Mystery of Love et Vision of Gideon. On écoute un extrait de ce dernier titre, l'un des morceaux emblématiques du long métrage.
You for the last time. Visions of Gideon. Visions of Gideon. For the love, for laughter, I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video?
Vous l'aurez compris, éclot une romance entre Elio et Oliver, dont l'écart d'âge aurait pu être malsain. Mais bien au contraire, la fiction, en assumant un côté perturbant, est devenue le film le plus intense de ce début d'année. Le récit revient donc sur l'amour, l'amour dans ce qu'il y a de plus beau, de plus obsédant, mais aussi dans ce qu'il y a de plus triste, de plus mélancolique. Call Me By Your Name évoque ce goût amer qui reste souvent à la fin des histoires estivales, des histoires intenses, mais aussi passagères. Le long métrage met l'accent sur ce sentiment lorsqu'on s'arrache le cœur et que l'on n'est plus contraint de vivre qu'avec des souvenirs. La réussite de ce film tient aux intentions du réalisateur qui n'a pas souhaité parler de l'homosexualité comme l'un des sujets à part entière. Il a simplement voulu parler du désir et de l'amour entre deux êtres, sous toutes ses formes. Fort de son succès, la fiction est un véritable phénomène plébiscité dans le monde entier. Elle obtient 3 nominations aux Golden Globes, 4 nominations aux BAFTA et aux Oscars. Le scénario de James Ivory lui vaut de remporter l'Oscar du meilleur scénario adapté. Voilà, on arrive au terme de cette chronique cinéma, je laisse la place à Manon désormais, et tu vas revenir ce matin, Manon, sur le manga Maggie dans la suite de cette matinale. Mais pour l'heure, un petit extrait de Mystery of Love, l'autre titre incontournable de Call Me By Your Name. Lord, I no longer believe. Drowned in living waters. Cursed by the love that I receive. From my brother's daughter. Like a feisty and new time.
C'était Ciné News sur Radio Prévert 105.9.
Quoi de neuf au CDI, la chronique littéraire sur Radio Prévert 105.9.
On se retrouve pour une nouvelle chronique littérature. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un manga. Déjà, je vais vous donner une définition de ce que c'est qu'un manga, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est pas parce que vous avez déjà entendu le mot un jour que vous savez ce qu'il veut dire. Le manga est déjà une bande dessinée japonaise. Au pays du soleil levant, le manga représente un patrimoine graphique et artistique considérable et jouit d'un statut exceptionnel, sans équivalent en Occident, malgré la reconnaissance du genre depuis l'école franco-belge, de la ligne claire jusqu'aux comics américains. Après avoir longtemps souffert d'une mauvaise réputation en Europe, on lui reprochait sa violence gratuite et son romantisme à l'eau de rose, la laideur de ses dessins et l'inconsistance de ses scénarios, le manga est aujourd'hui reconnu comme un art à part entière. Il révèle une inventivité et une diversité telles qu'il est parvenu à franchir les barrières culturelles occidentales, devenant un authentique phénomène. C'est en 1814 que le peintre Hokusai Kakuchika, grand maître de l'estampe japonaise, invente un mot pour désigner ses carnets de croquis, caricatures et études diverses qu'il réunira dans une encyclopédie en 13 volumes, 1814, 1848 et 2 volumes posthumes. Le manga, néologisme, issu de 2 idéogrammes chinois, man et ga, qui signifie dessin foisonnant, est traduit aussi par image dérisoire ou dessin grotesque. Ces dessins représentaient en effet des personnages aux expressions grimaçantes et aux physionomies comiques, caractéristiques que l'on retrouvera dans le manga des temps modernes. Beaucoup de personnes ont connu des mangas sans savoir ce que c'était. Par exemple, pour les personnes qui ont plus de la quarantaine, je pense aux mangas comme Candy, Albator ou encore Cobra. Ces noms vous évoquent peut-être quelque chose. Encore un, Heidi pour les femmes. Bon là ça me vient pas tout de suite, mais il y en a beaucoup. Vous en avez forcément connu un, comme Lady Oscar. Bon allez, maintenant que vous savez ce que c'est, on va pouvoir passer au manga dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Maggie, qui est un manga de type shonen. Les shonen sont principalement orientés pour les garçons. Et oui, dans les mangas, on fait des différences. Shonen pour les garçons, shoujo pour les filles, josei pour les jeunes femmes, et il m'en manque un, seinen pour les jeunes hommes. Ouf, on y est arrivé. Maggie est un manga où l'aventure, l'action et la fantasy y sont maîtres. L'auteur se nomme Okata Shinobu, qui est une jeune mangaka. Il faut savoir que les mangaka de type femme ont souvent été réprimés, parce que c'était des femmes. Elles n'avaient donc, entre guillemets, on va dire, pas le droit de faire des mangas shonen, donc des mangas pour garçons. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est très cliché quand même. Son manga est sorti sous forme papier. donc la bande dessinée, mais également sous la forme d'un animé, donc dessin animé, pour ceux qui n'auraient pas compris. L'animé est sorti à l'automne 2012 et a été animé par le studio d'animation A1 Pictures. Il y a en tout 2 saisons qui sont toutes les 2 très intéressantes et qui sauront beaucoup plus vous intéresser si vous n'avez tout simplement pas envie de lire. On peut comprendre. Passons directement à qu'est-ce qu'est réellement le manga Maggie avec un petit résumé. Allez, c'est parti. L'histoire de Maggie est en partie inspirée des fameux contes et légendes des mille et une nuits. Comme ça, vous le savez tout de suite. Dans le monde de Maggie, d'étranges lieux appelés labyrinthes ont commencé à apparaître de manière totalement aléatoire 14 ans avant le début de l'histoire. À l'intérieur, des montagnes de richesses, mais aussi d'horribles pièges et dangers. Cependant, dès qu'une personne est arrivée au bout du labyrinthe, celui-ci disparaît, laissant ses trésors à celui qui l'a vaincu. Aladdin, le personnage principal, est un enfant tout ce qu'il y a de plus inoffensif, du moins en apparence. En effet, la flûte qu'il porte autour du cou est la demeure d'un puissant djinn, du nom de Hugo. Un jour, le duo va faire la connaissance d'Ali Baba, dont le rêve est d'entrer dans un labyrinthe en quête de richesse et de gloire. Avec l'aide d'Aladin, son rêve lui semble être à portée de main. Mais Ali Baba ne se rend pas compte qu'avec Aladin, son aventure ira bien plus loin. Passons à mon avis maintenant. J'ai commencé Maggie il y a de cela plusieurs années, et j'ai toujours suivi l'œuvre au fil de l'apparition des tomes ou sur internet. Et oui, quand tu n'as pas d'argent, faut bien faire avec les moyens du bord, donc hop hop hop, recherche internet, les scans. Les scans, c'est... Comment dire ça ? Les scans sont ajoutés par des personnes qui ont le manga. C'est simple, elles vont scanner. C'est simple, elles scannent la page manga, et elles y mettent sur internet. Scan, scanner, allez. Pourquoi l'ai-je autant aimé ? Déjà, on entre dans un univers très proche des contes et légendes. Les contes des mille et une nuits, Sinbad, les djinns... Bon, Aladdin et Alibaba, je pense que vous connaissez. Ça stimule beaucoup l'imaginaire et donne l'impression de visiter un ailleurs. Il est d'ailleurs très facile d'entrer dans cet univers. Les personnages sont très bons. Ils ont tous un caractère différent et une manière d'agir qui leur est propre. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Leurs histoires ne sont d'ailleurs pas bâclées, elles sont très bien faites et arrivent réellement au fur et à mesure de l'histoire, ce qui donne une bonne dose de suspense. Un point fort de ce manga est également son aspect graphique particulier qui a tout de suite su attirer mon œil. Je vous conseille d'aller le vérifier par vous-même. On ressent tout le travail de l'auteur à travers son dessin. L'histoire globale du manga est bonne. Les personnages évoluent au fil de leurs rencontres et des endroits où ils vont. Ils changent aussi mentalement que physiquement. On se rend d'ailleurs compte du sérieux présent dans l'histoire. Je vous conseille d'aller lire ce manga si vous êtes en recherche de fantasy et tout simplement un désir d'oublier la réalité. Je vous le conseille vivement. On a fini pour aujourd'hui. La chronique était sans doute un peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura appris des choses.
C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9. Merci Manon, il est 10h30 sur Radio Prévert à Châlons. C'est l'heure de faire une pause musicale désormais. On écoute maintenant les Français d'Indochine avec leur titre Troisième Sexe, puis l'un des artistes à succès outre-Atlantique, Steve Grant. Et enfin, je vous enverrai Calogero et son morceau engagé, J'ai le droit aussi. On poursuivra en musique dans la dernière partie de cette matinale en revenant sur l'un des jeunes talents montants de la scène musicale française, Vianney. Et on passera au traditionnel Le Saviez-vous avec Manon. A tout de suite sur Radio Prévert. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Dans la 22 hours made for you. Steel eyes and blinders too. We were right on track to burn out fast. Winter moved along. The sun raced through a morning fog. No space or time. It's you and I. The sailing sheets while your body heats, keeping you warm. And you were keeping me warm through the nights when I left my life to the cold outside. You left your light on. Oh, you let me shine on. When time was on. Suspended in that warm street light. And if you ever figure out this life, keep telling me those sweet, sweet lies. Cause I don't wanna know.
Ils plaindront mes ces gens qui me trouvent trop différent. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre heureux, j'ai le droit aussi. Ça choque, je ne veux plus avoir peur. Un homme est un homme, peu importe où va son cœur. J'ai le droit aussi, le droit d'être avec lui. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi, le droit.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. De retour sur l'antenne de Radio Prévert, 105.9, en direct toujours. On poursuit en musique dans cette matinale et aujourd'hui on va revenir sur un jeune artiste révélé par son tube Pala. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Vianney. Music Time, votre magazine sur les dernières nouvelles et sur l'histoire de la musique. Si on revient ce matin sur le 105.9 sur la jeune carrière de Vianney, c'est que le chanteur a fait dernièrement ses premiers pas dans le monde du 7e art. Alors qu'il cartonne dans tous les zéniths de France depuis maintenant 4 ans, l'artiste sera bientôt sur grand écran au cinéma. Et pour cause, il a joué dans le long métrage Ma mère est folle, une comédie réalisée par Diane Curis. Il donne la réplique à Ariel Dombal ou encore Fanny Ardant. La fiction trace le récit d'une maman un peu loufoque qui accepte de faire un go-fast pour gagner de l'argent. Voilà sans doute pourquoi le chanteur n'a pas sorti de nouvel opus, bien occupé dans cette nouvelle aventure prometteuse, depuis celui éponyme, disponible dans les bacs en novembre 2016. Voilà, c'est le titre que vous reconnaissez tous. Vous l'avez au moins entendu une fois à la télé ou en radio. C'est ce morceau qui a propulsé Vianney dans sa carrière, nouvelle révélation française. Cette balade s'imposera comme l'un des cartons de l'année 2014. Une chanson inspirée de la rupture avec son ex qui lui manque terriblement, tantôt mélancolique, tantôt entêtante. Une relation où le personnage était amoureux d'une personne qui semblait ne rien donner en retour. C'est un jeune très romantique que l'on découvre alors. Le clip, quant à lui, cumulera près de 25 millions de vues sur YouTube. Un succès sans précédent pour l'artiste. Autre morceau, autre tube sorti quelques mois avant Paula, c'est « Je te déteste ». Vianney décrit ici sa colère envers son ancienne petite amie. L'amour et ses dérives sont à nouveau présents dans cette chanson entraînante.
J'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissée, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. D-A-T-E-S, T-A, je déteste. D-A-T-E-S, T-A.
Ces deux morceaux sont présents sur le tout premier album Idée Blanche, sorti par l'artiste en octobre 2014, bientôt 4 ans donc. C'est durant ses études à l'ESG Management School que Vianney rencontre celle qui devient sa manageuse et qui l'encourage à faire connaître ses morceaux. Vous l'aurez compris, le thème majeur de l'album est l'amour, qu'il soit heureux ou déçu. Vianney décrit son album comme l'expression de l'optimisme qu'il dit le caractériser et ce qui justifie selon lui le titre de cet opus. Néanmoins, une nouvelle chanson va être largement diffusée sur les ondes, c'est Véronica. Alors ici, l'amour sentimental n'est plus, mais c'est l'amour d'un fan à une artiste que Vianney interprète alors. Mais qui est cette Véronica? Eh bien, c'est tout simplement une chanteuse suédoise, Veronica Maggio, peu connue en France. Le jeune artiste l'adore et lui a rendu un vibrant hommage, en quelque sorte un hommage avec ce titre.
J'attends à la radio, ou bien hanter ma radio. Mélodie, mélodiance, au fil la folle la fréquence. Oh, parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêve à celui qui s'acharne. Dans tes duos se garde, je veux que ce soit moi.
Signe de sa montée sur la scène musicale avec ses tubes à la chaîne, Vianney assure alors la première partie des concerts du Chalonnais Florent Pagny, puis celle de Cats on Trees, Chaka Ponk, Julien Killer ou encore de Johnny Hallyday. Après ce succès avec Idée Blanche, le jeune artiste revient avec un nouvel album éponyme en 2016. Il composera intégralement le tube de ce disque, Je m'en vais.
Il tourne et tourne dans ma tête l'image du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres.
À travers ce morceau, Vianney espère par-dessus tout faire revenir l'être aimé. Il souffre, il abandonne ce départ prématuré pour montrer ce qu'il ressent vraiment. De la souffrance, mais aussi de l'épuisement. Au fil du temps, il est lassé d'attendre dans une relation à sens unique. Dans le clip, on le voit abandonner son sac à dos, dans le but d'oublier la personne aimée, d'oublier l'importance qu'elle a pour lui. Mais on le sait bien, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Deux autres morceaux se détacheront de cet album, Moi aimer toi, un titre joyeux et où la bonne humeur règne. Entouré de cuivres, de percussions et de sa guitare fétiche, Vianney traite ici, paradoxalement, des conflits qu'un couple peut avoir à gérer.
Si moi aimer toi, blessez-moi. Si moi aimer toi. Quand moi aimer toi, blessez-moi. Quand moi aimer toi. Si moi aimer toi, blessez-moi. Si moi aimer toi, quand moi aimer toi, moi blessé, moi.
Ensuite, plus récemment, Vianney poursuit la promo de son disque avec la chanson Dumbo, une ballade aux sonorités reggae, une véritable ode à la confiance en soi.
Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Soit les oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là, ne sont pas les plus aimants. Enfin, ça dépend, je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je veux comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je veux comme Dumbo, je ne fais que voler.
Natif de Pau, Vianney grandit avec des parents mélomanes et deux frères. Baigné dans un univers où son père chante et gratte les cordes de sa guitare sur des chansons de Brassens ou encore Le Forestier, il se découvre rapidement une passion pour la chanson dès l'âge de 12 ans. Il commence alors à écrire des chansons. En 2005, son paternel le présente à des amis musiciens. Il enregistrera alors avec son frère aîné son premier CD. 2 ans plus tard, il fait son premier concert dans une grande salle, le New Morning, bien connu à Paris. Après avoir quitté le sud de la France, Vianney grandit à la capitale. Il suit sa scolarité dans un collège catholique et entre ensuite au lycée militaire de Saint-Cyr. Le bac obtenu, il entre en 2009 à l'ESG Management School de Paris pour 3 années d'études. Il décroche alors son bachelor à Londres. Il étudie ensuite le stylisme à l'École supérieure des arts et techniques de la mode et sort diplômé en juin 2014. Catholique pratiquant, son prénom Vianney est inspiré de la religion. Rapidement, il met ses valeurs sur la table et fait du scoutisme durant son adolescence et devient chef de patrouille au sein des scouts d'Europe. Aussi, il participe à l'accueil des personnes sans domicile fixe dans une paroisse parisienne. Sa chanson « Les gens sont méchants » fait référence à cet engagement bénévole. L'artiste fait souvent des références à Dieu également ou à ses pèlerinages solitaires puisque c'est un grand voyageur. Et notamment, il dédie sa chanson « L'homme et l'âme » aux victimes du terrorisme et au père Jacques Hamel, martyr de l'église catholique, mort dans l'attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016.
Qui s'appelait Maxime, Jessica Martin, pauvres âmes. Est-ce le monde qui plie ou le vieux qui fatigue de nos âmes. Et si l'âme est chère à l'homme, souvent l'homme chérit la lame, là où l'homme. La mamie les voit.
Fort de son succès, Vianney va commencer donc à collaborer avec des monuments de la chanson, où il partagera notamment la scène de Chagapong, Boulevard Désert, Big Flo et Oli, Maxime le Forestier ou encore Gérard Lenormand. Des titres et des duos se forment à l'issue de ces collaborations. Vianney travaille pour et avec Céline Dion, Louane et également Julien Clerc donc. Il y a 2 ans, il partage Les Filles d'aujourd'hui avec Joy Jonathan ou plus récemment avec Maître Gims et le titre La Même. On écoute tout de suite un extrait de ce dernier duo.
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de 1000 bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi 1000 chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Pour le jeune talent, les prix tombent. En 2016, il remporte la victoire de la musique catégorie artiste-interprète de l'année et en 2017, la victoire de la musique catégorie chanson originale de l'année pour le titre Je m'en vais, pour ne citer que ses récompenses. S'il n'a pas encore prévu d'enregistrer un troisième album, Vianney mettra un terme à sa tournée à l'Accor Hotel Arena les 8 et 9 juin prochains, avant d'entamer une tournée des festivals. Voilà, on arrive au terme de cette chronique musique, toujours en direct. On te retrouve désormais, Manon, pour le Saviez-vous, dans la suite de cette matinale sur l'antenne de Radio Prévert.
On débat sur des sujets qui nous font, toi et moi, nous sentir un peu con. On n'a pas le bagage qu'il nous faut, ça je ne sais pas, mais je t'aime trop. Si tu tombes, je ne t'en veux pas, dans ton monde tu m'emporteras.
C'était Music Time sur Radio Prévert 105.9.
Le saviez-vous ? Les anecdotes les plus insolites et tout ce que vous ne saviez pas, c'est maintenant sur votre fréquence. Il est l'heure de la dernière chronique de cette matinale. Aujourd'hui, dans ce Le saviez-vous, j'ai décidé de nous emmener en pleine mer, plus précisément dans l'Atlantique, pour une zone réputée comme zone du diable. Peut-être avez-vous compris de quoi je parle. Il s'agit du Triangle des Bermudes. Le Triangle des Bermudes est une zone géographique imaginaire de l'océan Atlantique, qui aurait été, selon la légende, le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'aéronefs. Néanmoins, cette légende se fonde surtout sur des informations erronées, embellies ou mal interprétées, et non sur des preuves évidentes. Le triangle ne présentant statistiquement parlant aucune anomalie. On parle de statistiques. Ainsi, selon un rapport du World Wide Fund for Nature, en 2013, le triangle des Bermudes ne fait pas partie des endroits les plus dangereux pour la navigation. La zone géographique que représente le triangle des Bermudes est très fluctuante selon les récits rapportés et les considérations des écrivains qui ont décrit les mystères liés à cette zone géographique. Selon les auteurs, la zone varie de 500 000 à 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui influe sur le nombre de disparitions qu'on y reporte. C'est en février 1964 que Vincent Cadis, dans un article nommé « The Deadly Bermuda Triangle », définit dans le pulp magazine Argosy la zone géographique qui recouvre le triangle des Bermudes. Cette zone se situe à l'intérieur d'un triangle formé par l'archipel des Bermudes, Miami et San Juan à Porto Rico. L'histoire du triangle des Bermudes commence réellement avec la disparition d'une escadrille de 5 chasseurs bombardiers le 5 décembre 1945 au large de la Floride. Événement connu comme le vol 19. Peut-être le connaissez-vous. Cependant, il semblerait que les avions d'exercice, dépourvus d'éléments de navigation, se soient tout simplement perdus en mer après que le combat du pilote instructeur, le lieutenant Charles Tyler, fût tombé en panne. Malgré cette réalité, la machine légendaire était révélée, et elle ne s'arrêterait plus d'attiser le paranormal et le surnaturel. De plus, on rapporte qu'en réalité, des disparitions et autres dérèglements s'étaient déroulés dans la région bien avant les années 40. Par exemple, Christophe Colomb, que vous connaissez tous très bien, lui-même a rapporté que son compas s'était déréglé dans ce même secteur. Coïncidence ? Je ne sais pas. Et ce n'est pas fini. En 1918, l'USS Cyclops, un navire charbonnier de l'US Navy, disparaît en mer sans laisser de traces ni de messages radio. Tout cela allait alimenter la légende, encore vivace aujourd'hui. Le journaliste du Los Angeles Times, Howard Rosenberg, publia en 1974 un article estimant que plus de 190 navires et 80 avions auraient disparu dans cette même zone au cours des 100 années précédentes et que les gardes-côtes américains ont répondu à plus de 8000 appels de détresse dans ce secteur. Le triangle des Bermudes. Est-ce finalement une légende ou une réalité? Car bon, il faut le dire, ça fait quand même beaucoup de disparitions dans un même endroit. À vous d'en juger. C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Manon de nous avoir accompagnés ce matin.
Mais de rien Stéphane.
On vous donne rendez-vous mercredi prochain en direct pour une nouvelle matinale sur l'antenne de Radio Prévert 105.9 à Chalon-sur-Saône. Il est bientôt midi. On vous souhaite un bon appétit si vous passez à table. On vous laisse avec la suite de vos émissions habituelles et le retour de la musique. Passez donc un excellent mercredi après-midi, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Salut!
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Whoa. Good morning. And
good morning, Radio Prevent.